Alors, nous sommes avec frère Jean-Marc et nous sommes dans l'ancien presbytère.
Voilà, petite chapelle là-haut.
Nichée au flanc de la colline, c'est
donc,
ça ?
C'est donc une chapelle qui est sur le GR 65, sans problème. Et le pèlerin, quand il s'est déjà payé la moitié de la côte, il est heureux. Alors, il sonne la cloche qui est là-bas. Et quelquefois, le frère Jean-Daniel ose lui répondre avec les cloches de l'abbatiale. Il ne faut pas qu'il soit trop loin, il faut qu'il entende, il faut que ça soit la bonne heure, etc. Mais enfin, il y a une tradition comme ça. Cette chapelle, elle est mise à l'emplacement où le moine qui est allé chercher les reliques de sainte foi de manière un petit peu cachée, translation furtive, à Agen, s'est arrêté en disant, et puis a signalé, j'arrive. Voilà. Donc c'est assez joli comme lieu. Puis on a l'arrière du pays, les remparts.
Nous sommes toujours à Conques, halte majeure sur les chemins de Saint-Jacques. Mais en ce début de mois de mars, ils ne sont pas encore très nombreux, ces pèlerins qui, au soir couchant, contournant l'abbatiale, se retrouvent à l'hôtellerie et, pour une nuit, déposent besace et bourdon du XXIe siècle. À l'accueil, les frères. Nous en avons parlé dans le reportage précédent. Mais aussi, et bien sûr, les hospitaliers. 20h, juste avant l'office du soir, c'est l'heure de la vaisselle.
C'est un moment très convivial.
Qui fait partie de votre mission hospitalière.
Tout à fait, la vaisselle, accueillir les pèlerins, bien sûr, c'est la première mission. Et les écouter, s'occuper de leur bien-être avant tout. Qu'ils puissent se reposer dans des bonnes conditions, être bien nourris.
Vous, ici, à Conques, Myriam, vous êtes un peu chez vous, ici.
Ah oui, parce que ça fait plusieurs années que je viens. Et alors, c'est comme si chaque année, je revenais en famille. C'était une grande réunion de famille. Les frères sont devenus des amis. On connaît leurs attentes et on fait au mieux pour tout le monde et en fonction des désirs de chacun.
Et comment vos pas vous ont mené jusqu'ici ? Comment ? Pourquoi ? C'est alors, un long cheminement, une longue histoire, ça ?
C'est une vieille histoire. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, du Puy jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et arrivé à Saint-Jacques, j'ai eu envie de rendre ce qui m'avait été donné sur le chemin. Et mon arrêt à Conques m'avait apporté tant de bonheur, d'émerveillement, que j'ai postulé pour venir aider à Conques et j'ai été prise et depuis lors, chaque année, sauf l'année passée à cause du confinement, je reviens à Conques pendant à peu près 15 jours pour aider en tant qu'hospitalière.
Le chemin de Saint-Jacques, avec un chemin qui marche, vous a enraciné ici à Conques, dans ce petit bout de terre.
Tout à fait, oui. Je pense que sur le chemin, je crois que quasiment tous les pèlerins sont très sensibles à la beauté de Conques, à l'accueil dans l'abbaye. Ils en parlent énormément. Aujourd'hui, il n'est pas présent, mais il y a un frère qui s'appelle Jean-Daniel, qui joue tous les soirs de l'orgue et qui explique le tympan de l'abbaye. Et tout ça fait que c'est un arrêt un peu plus riche peut-être qu'ailleurs, parce que il y a tout le c'est un grand monument historique, ce village, et donc on ne l'oublie pas. Quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà.
Un culturel qui nous mène vers une démarche de foi, je ne sais pas, certainement, peut-être pas pour tous les pèlerins, mais qui mène vers une spiritualité, vers le sacré.
Alors, par expérience, et j'entends un peu, j'écoute les pèlerins, beaucoup de pèlerins, peut-être même la majorité, ne fait pas le chemin pour des raisons religieuses. C'est un chemin qui est très bien, la logistique est très bonne sur le chemin, on trouve partout de quoi se loger, de quoi se nourrir, donc c'est un chemin plus facile, plus confortable, et donc beaucoup le font pour ça. Ça peut être pour des raisons sportives, ça peut être pour des raisons personnelles, pour faire un peu un bilan dans sa vie, etc. Ce n'est pas d'office religieux, mais tout sur ce chemin chaque jour vous rappelle tout de même à cette dimension religieuse. Alors, même si on n'est pas parti pour des raisons religieuses, je crois qu'au bout du chemin, c'est impossible de ne pas y être insensible. Et je crois que, tout doucement, le cheminement qu'on fait de la marche est surtout, devient surtout un cheminement dans la tête et qui va vers le spirituel, qui amène vers le spirituel.
Il y a comme un dépouillement, d'ailleurs, peut-être, on part léger, il faut partir léger sur le chemin.
Oui, il y a certainement un dépouillement. D'ailleurs, on part tous, on part du puits souvent avec un très gros sac à dos. Et déjà, premier dépouillement, on se rend compte après quelques jours que c'est vraiment trop lourd. Et donc, on élague son sac, première chose. Donc ça, c'est une élimination matérielle. Et puis tout doucement, on élague aussi dans sa tête et on se dépouille de beaucoup de choses.
Entre le matin et le soir, comme l'écrivent Jean-Noël Gurgon et Pierre Barré dans leur livre « Priez pour nous à Compostelle », il y a le chemin. De terre ou de roc, de pierres rongées, de feuilles mortes, de bouts de sable de silex, griffant le dos des collines pelées, paraissant au creux des bocages, coupant droit les paysages en deux, c'est là l'ordinaire des jours du Pèlerin.
Surella. Et puis
Benjamin.
Damien.
Alors, tous les trois, vous faites le chemin ensemble ou pas?
Non, on le fait. Moi, je le fais avec Surella.
Oui.
Et Damien le fait seul.
On s'est rencontrés sur le chemin.
Vous êtes parti depuis quand et d'où vous êtes parti?
On est parti du Puy-en-Velay il y a 9 jours.
Et moi, de Mont-Aubrac, c'était mercredi dernier, je crois.
C'est une première pour vous, le chemin?
Pour moi, oui, c'est une première.
Moi, j'ai fait le Camino del Norte en 2019. J'ai commencé à Irún et je suis allée jusqu'à Santiago. Et je suis même allée à Finisterre, le Cap Finisterre. Et donc, qu'une envie, c'était de recommencer, de reprendre la route. Voilà, et j'ai entraîné mon ami Benjamin avec moi, quoi, sur le chemin.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette envie?
Il y avait le dépassement un peu de soi. Dépasser les douleurs pour avancer plus loin. Et le côté spirituel, évidemment, on dit qu'on est appelé par le chemin. Moi, je ne l'ai pas été de suite, mais au bout de plusieurs centaines de kilomètres, effectivement, on ressent cet appel du chemin, comme on le lit souvent. Voilà. Pour moi, ça a été ça. Et le chemin, pour moi, c'est évident que je vais continuer à marcher, quoi.
Une découverte de vous-même aussi, une rencontre avec vous-même et puis avec les autres, avec
oui.
Vous-même d'abord.
Et avec moi-même d'abord, exactement. C'est une des premières choses que j'ai apprises sur le chemin, c'est se regarder soi-même, découvrir qui on est et aller plus loin intérieurement. Et c'est ça qui est très intéressant, qui m'a bouleversée, on va dire.
Benjamin, ça fait une petite semaine, une grosse semaine que vous marchez. Oui. Qu'est-ce que vous découvrez au bout d'une semaine?
Une tendinite sur les tendons d'Achille. Non, qu'est-ce qu'on découvre? En fait, on découvre l'envie de continuer à marcher. Ouais. Déjà accepter la douleur, c'est vrai. Et l'envie de continuer. Là, on s'arrête à Conques, qu'on a fini. Mais c'est vrai qu'on a envie de continuer.
Alors moi, je n'ai pas fini. Donc je suis encore à la recherche des réponses à des questions que je ne connais pas, en fait. Pourquoi j'ai fait le chemin? Pour chercher Dieu, en fait, pour essayer de trouver Dieu. Je ne le trouve pas dans ma vie de tous les jours, et je me suis dit que le chemin, c'était le bon moyen. Si je ne le trouvais pas dans mon quotidien, c'est vrai que le fait d'être tout seul, on a beaucoup de temps pour réfléchir. On en parlait avec Benjamin tout à l'heure, on a beaucoup de temps en marchant. Mmh. Et principalement pour ça. Essayer de se retrouver. Moi, là, j'ai pas continué un travail que j'avais commencé. Peut-être essayer de trouver une continuité à ma vie, un nouveau but, quelque chose de nouveau. Je fais confiance au bon Dieu.
Vous abandonnez tout simplement? S'abandonner au chemin, s'abandonner au rythme de la marche, à la nature? Vous êtes en pleine nature, loin du bruit, loin de la vie citadine?
Ouais, c'est possible. Après, le chemin, c'est vrai qu'il est très beau. Il y a pas mal de décors. C'est agréable. S'abandonner, je sais pas. Je pense que, comme il l'a dit, c'est quand même difficile. Quand on a mal, s'abandonner, la douleur nous rappelle qu'on est là quand même. Franchement, je ne sais pas trop. Je suis parti un peu comme ça, sans trop réfléchir.
Et ce soir, Conques, c'est un lieu porteur?
Si, on est heureux. Quand on est dans l'Aubrac, par exemple, disais, les pèlerins qui ont marché avant nous dans ce décor d'horreur et d'enfer, comme on a pu lire. Et on sait qu'il y a d'autres gens qui sont passés...
C'est s'inscrire dans une histoire aussi.
Ouais. Oui, voilà, c'est ce qu'on a une histoire, quoi. Je voulais juste te dire, il dit on cherche des réponses. Et moi, je cherchais aussi des réponses, mais finalement, ce que j'ai trouvé sur le chemin, c'est des questions, c'est des nouvelles questions.
À Conques, sur le chemin qui les mène vers le tombeau de Monsieur Saint-Jacques, de nombreux pèlerins sont saisis par la beauté, par l'immanence du lieu. Par sainte foi, peut-être. L'occasion pour nous d'aborder avec Frère Damien le sens des reliques.
Le sens des reliques, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un défi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent, de touristes l'été, et je ne sais pas s'ils se rendent compte que quand ils font le tour du déambulatoire derrière l'hôtel, qu'ils passent devant les reliques de Sainte-Foy, quand ils vont au trésor, qu'ils sont devant la majesté reliquaire. Et c'est aussi à nous, aujourd'hui, pastoralement, il y a un super terrain pour évangéliser, pour dire que ces reliques, c'est pas seulement... c'est pas des gris-gris, des fétiches où on n'est pas là pour vénérer des os de quelqu'un qui est mort, mais c'est vraiment honorer dans le corps de la personne sa sainteté, sa vie qui est conforme à l'Évangile, à la vie du Christ. Et comme Sainte Foy qui a donné sa vie, qui a été fidèle jusqu'au bout au Christ, je m'appelle Foy et je ne renierai pas ma foi. Aujourd'hui, ouais, je crois que cette prière des reliques peut toucher les gens qui viennent simplement confier aussi, parce que souvent on marche pour quelqu'un, et confier leur intention à Sainte Foy par le biais de ces reliques. Donc on a souvent des demandes de gens qui veulent prier auprès des reliques. Et alors les gens, ils sont, c'est la foi populaire, hein. On n'est pas là pour juger, c'est pas la bonne prière pour prier devant des reliques, où chacun, et avec le saint, Sainte Foy intercède et il y a une relation qui se met en place avec la sainte. C'est très personnel et mystérieux et ça nous dépasse. Donc c'est une affaire entre eux et Sainte Foy. Nous, on n'est que des passeurs pour permettre cette relation in fine avec le Christ, bien sûr. On ne s'arrête pas à la sainte, on remonte à la source.
Oui, vous êtes juste là, oui, comme un vecteur, un passeur.
Oui, on est en chemin. Et sur le chemin, on est tous des compagnons. Mais on doit. Enfin, notre mission, c'est de conduire au Christ. Et Sainte Foy est un vecteur à Conques royal. Enfin, c'est le vecteur qui nous est donné ici. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Le pèlerinage de Sainte Foy est appelé à porter encore bien des fruits et à se développer. C'est mon vœu pour les pèlerins et tous ceux qui passent ici à Conques.
Oui, puis après tout ça, ça ne vous appartient plus non plus.
Exactement. Ça, c'est beau aussi, ce que vous dites, parce que ça ne nous appartient pas. On en est dépositaire, on le reçoit, mais comme responsable pour le donner. On en vit tant qu'on peut, mais après, on doit le donner à vivre aux pèlerins. C'est pas pour nous. D'ailleurs, les reliques de Sainte-Foy sont là grâce aux gens de Conques. Les reliques sont quelque part aux Conquois. Les Conquois sont très attachés aux reliques. Le pèlerinage de Sainte-Foy, c'est quelque chose ici à Conques et aux alentours.
C'est leur histoire.
C'est leur histoire, tout à fait. C'est comme quelqu'un de la famille, quoi. Sainte-Foy, c'est pas une inconnue.
Aujourd'hui, bien à l'abri dans l'espace muséal, les reliques de Sainte-Foy. Au Moyen-Âge, elles se trouvaient dans le cœur de l'abbatiale et c'est là que nous retrouvons frère Pierre-Adrien.
Alors, on est devant les grilles du XIIe siècle, là. Ces grilles, elles sont magnifiques, hein, c'est du très beau fer forgé. Et elles étaient là parce qu'elles protégeaient la majesté de Sainte-Foy, qui est une statue en or absolument splendide, couverte de pierres précieuses. Et ici, vous avez les bancs de pierre pour que les pèlerins viennent s'asseoir et prient Sainte-Foy. Il faut savoir qu'à l'époque, l'église était ouverte en permanence. Passer la nuit ici à prier. On a des traces historiques avec le livre des miracles qui date du XIe siècle, donc avant cette église quand même, de pèlerins qui restent toute la nuit et les moines tiennent à ce que l'église soit ouverte en permanence. Alors on le fait plus maintenant, mais c'est le frère Couchetard qui ferme l'église et c'est le frère Lefteau qui ouvre l'église. Et alors ces grilles, elles ont une histoire. Parce que dans les livres anciens, on nous raconte que on venait à Conques pour plusieurs raisons. Sainte foi, vous savez, celui qui a la foi grosse comme une graine de moutarde peut dire à cette montagne, déracine-toi, elle va te planter dans la mer, et elle le fera. Donc la foi, c'est efficace. Et donc sainte foi, avec un nom pareil, c'est une sainte à miracle. Depuis l'époque médiévale, on vient prier sainte foi pour lui demander un miracle. Alors, on vient la voir pour la naissance d'un enfant, on vient la voir pour la guérison des yeux. Oui, c'est un lien, hein, les yeux, la foi. La foi, c'est les yeux du cœur, les yeux de l'âme. Et puis, on nous dit, à l'époque médiévale, que les miracles les plus courants, c'est la libération des captifs. La foi, ça libère. Et du coup, il y avait un tas de chaînes, nous dit-on, qui encombraient l'Église, parce que les captifs... Vous savez, il y avait beaucoup de prises d'otages à l'époque où, sur le champ de bataille, on pouvait être capturé. On demandait une rançon et un certain nombre réussissaient à se libérer et ils amenaient leurs chaînes en ex voto pour remercier sainte foi de les avoir libérés. Et les livres anciens nous racontent que, comme ça encombrait l'Église, eh bien, on a fabriqué ces grilles avec des chaînes, de prisonniers. Voilà, elles protègent la majesté, mais elles sont des signes de libération aussi. On nous dit que sainte foi libère les prisonniers, qu'ils soient innocents ou coupables. Voilà. Et c'est assez effectif quand même, parce que sur le chemin de Saint-Jacques, vous avez parfois des détenus en fin de peine qui viennent, qui font le chemin un peu pour se préparer à leur libération. Ça peut être des aumôneries de prison qui organisent ce type de marche. C'est très beau, en fait, ce qui peut se vivre. Aussi, du coup, on a découvert le sort d'un certain nombre de réfugiés d'Afrique qui se font capturer. Actuellement, c'est encore beaucoup en Libye, pour être rançonnés, et qui peuvent vivre des traumatismes très profonds. Et quand ils arrivent en France, certes, on peut s'occuper d'eux, leur apprendre le français, et leur donner à manger, mais ils sont souvent porteurs de traumatismes. Et donc, il y a une association qui s'est fondée. Elle s'est fondée un peu à Conques, quand même. C'était en 2015. Je me rappelle très bien le moment où ça s'est cristallisé. On a fait un colloque. Les Érythréens qui fuyaient leur pays et qui se faisaient capturer dans le Sinaï, à partir d'un documentaire qui s'appelait « Voyage en barbarie », on a parlé de choses horribles. Et en même temps, on était dans l'un des plus beaux villages de France, dans une nature splendide, avec Sainte-Foy qui libère les prisonniers. Et on a dit « mais on ne peut pas faire ce colloque et puis retourner à nos petites vies ». Et du coup, une journaliste, Cécile Allégra, a dit « mais on va faire une association et on fera venir ici des réfugiés survivants de camps de torture, d'emprisonnement politique, de prostitution forcée, pour qu'ils viennent se reconstruire ». Et alors depuis, il y a eu 21, je crois que c'est au moins 21, peut-être plus maintenant, 21 semaines, avec des groupes d'une dizaine de réfugiés ou de demandeurs d'asile ayant vécu des choses particulièrement difficiles, qui viennent passer une semaine.
Via l'association.
Via cette association.
Et l'association, c'est ?
Elle s'appelle Limbo.
Retour à l'hôtellerie. Myriam et Guy, qui est hospitalier pour la première fois, attendent les pèlerins du soir.
Alors, c'est une année un petit peu particulière du fait des problèmes de Covid. Mais malgré tout, on a un contact avec les pèlerins qui est un petit peu privilégié du fait d'être hospitalier. Comme moi, j'étais aussi pèlerin. Et c'est un petit peu... Ça me permet de retransmettre ce que moi j'ai vécu et le retransmettre aux pèlerins qui passent. Donc, pour être hospitalier, comme aussi un peu pour être pèlerin, il faut être dans une démarche personnelle qui rapproche. Si on est dans ce lieu, c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit. Donc, automatiquement, on a des points communs. On est assez dans l'empathie, dans l'aide, dans le secours de l'autre. Donc je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir une osmose entre les hospitaliers et puis aussi avec les pèlerins. Mais c'est surtout ça. Voilà. Au-delà du spirituel, hein, je parle bien, ça va au-delà du spirituel, c'est tout simplement...
C'est humain, tout à fait,
c'est un comportement.
Myriam nous parle de fraternité.
D'hospitalier, tout à fait, parce que nous vivons pendant 15 jours, nous accueillons, nous aidons les pèlerins, et nous faisons corps, vraiment, pour les aider au mieux. Mais ça va au-delà de l'hospitalité, je dirais que... Dans ma vie, même 20 ans après avoir fait le chemin, si je rencontre, que ce soit dans mon pays ou dans un autre pays, quelqu'un qui a fait le chemin, j'ai l'impression que nous faisons partie d'une même famille. Il y a une expérience que nous avons faite, que d'autres n'ont pas faite.
Une reconnaissance.
Et une reconnaissance, oui, exactement. Alors, vous parliez de fraternité, il y a une énorme fraternité sur le chemin. Si quelqu'un s'arrête parce qu'il a des problèmes de santé ou parce qu'il n'a plus le courage, on est tous là pour aider. Éventuellement, on va donner notre trousse de médicaments pour qu'il puisse continuer. On fait d'abord attention aux autres avant de... Alors, l'humanité devient très très belle sur le chemin, vraiment. Il y a une autre dimension qui est, je trouve, très intéressante sur ce chemin. C'est que nous sommes tous fatigués, nous avons trop chaud, nous avons trop froid, nous souffrons quelquefois dans notre corps et dans notre tête aussi, bien sûr. Et personne, il y a une sorte d'anonymat. On n'est pas en train de dire, ben voilà, moi j'ai tel diplôme, personne ne connaît votre compte en banque. Et finalement, on est tous à égalité. Et ça aussi, c'est une très bonne chose de revenir à cette dimension d'égalité et d'être tout simplement, qui n'existe plus tellement dans notre vie quotidienne tout de même. Voilà.
Dans le jardin, derrière le prieuré, nous retrouvons Bernard. Il est bénévole.
On a fini. On a déraciné des arbres. C'est le prieuré. Donc on est derrière.
C'est magnifique. Puis il fait beau, là, en ce moment, aujourd'hui, les forsythias sont en fleurs.
La végétation est plus en avance ici, dans l'Aveyron, que chez nous.
Chez vous, c'est où?
Lille.
Oui, donc le travail d'hospitalier, enfin le travail, la mission de l'hospitalier, elle est très, très diverse.
Nous, on est bénévoles pour les travaux, là. Il y a différence, parce que comme Myriam et puis Guy, eux, ils sont hospitaliers. C'est le travail, moi, je reviens en juillet pour faire le bénévolat hospitalier. Comme là, nous, on est bénévoles pour les travaux. C'est totalement différent. Les travaux, il faut être manuel. On ne pourrait pas demander des travaux de hospitaliers pour les travaux bénévoles. Bénévoles travaux. Il faut avoir certaines assez compétences.
C'est deux choses totalement différentes. Avez fait le chemin quand même déjà.
Mais tout le monde. Pas tout le monde a fait. Moi, l'une des principales, quand je suis passé à Conques, j'ai tellement été bien accueilli que je me suis dit, je veux aller jusqu'à Santiago. Quand j'aurai fini mon chemin, je reviendrai à Conques pour être bénévole hospitalier. Chose que j'ai fait mon chemin en 2018 et j'ai posé ma candidature en 2019 pour être hospitalier.
À Conques, il s'est passé quelque chose?
Ah oui, mais pour la plupart, c'est comme ça. Conques, en plus, c'est le... Soit on redémarre à Conques, soit on termine une partie du chemin. Mais pour la plupart, Conques, ça marque.
Je pense qu'on aime toujours revenir à Conques et qu'on garde un grand souvenir de Conques sur notre chemin.
Myriam.
Grâce à la présence des frères prémontrés, cette présence religieuse, les offices religieux qui sont chantés, avec de très belles voix en plus, l'orgue avec frère Jean Daniel. Voilà, ça c'est certainement un attrait majeur de Conques, en plus de la beauté du lieu.
Sur cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grains de chapelet. Si tu te trébuche, ne crains pas les bûches, cette marche est bien, c'est le que tu voulais. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur.
Avant de refermer ce reportage, plongeons-nous encore dans le livre de Barré et Gurgon. Ego sum via, je suis le chemin, encore dit le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin est obsédant. Il griffe le dos des collines pelées, paraissent au creux des bocages, coupe droit les paysages ondeux. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il mène à Saint-Jacques, et qu'à Saint-Jacques, vous saurez quelque chose de plus sur vous-même, comme si, usant vos pieds dans les ornières, vous usiez aussi le vieil homme que vous étiez. Un chemin qui, pour notre part, en cette semaine sainte, nous a menés jusqu'à Conques. Je vous y retrouverai demain encore, et nous serons en compagnie du frère Jean-Daniel. Ultreia !